franceinter.com. La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
L'État et les cultes, la politique et les religions dans leur pluralité, pour éclairer ce débat qui toujours donc rebondit chez nous, un dossier aujourd'hui, État-Église pendant la Révolution française, avec Rita Hermant-Belot, bonjour.
Bonjour Jean Lebrun.
Qui anime différents séminaires, notamment à l'École des hautes études en sciences sociales, sur la liberté des cultes en France, sur les faits religieux. Le grand intérêt, Rita Hermant-Belot, de la marche de l'histoire, c'est qu'on ne sait pas où elle va aboutir. Ainsi, à l'aube de la Révolution, les hommes de 1789 n'ont nullement l'intention de s'attaquer à la religion. Ici, dans La Marseillaise, le film de Jean Renoir, 1938, le dialogue d'un paysan avec un curé patriote.
Moi aussi, j'en ai assez de crever de faim. Notre situation ferait crier de pitié les pierres mêmes du chemin où nous traînons nos souliers percés. Si je te disais qu'il y a un an que j'ai pas de carreau aux fenêtres de mon presbytère, et pendant ce temps, l'évêque habite un palais, a des maîtresses, et mène une vie de débauché dont devrait rougir un serviteur du Christ, un gamin de 22 ans, si c'est pas malheureux. Mes enfants, le moment est venu pour vous de quitter la montagne. On a besoin de vous.
Les adversaires, ceux qui vont le devenir, ne savent pas en 1789, Rita Hermant-Belot, qu'ils vont l'être dans les années qui suivent. Il y a même une révolution française catholique, des prêtres qui sont patriotes, on peut même dire presque des révolutionnaires qui le sont parce qu'ils sont prêtres.
Absolument, on connaît ce jugement d'un adversaire de la Révolution qui parlait très en colère de ces foutus curés qui nous ont fait la Révolution. Et il avait tout à fait raison. Dans les hommes qui ont construit cette Révolution, dans les membres de ce qui va se constituer en Assemblée nationale, il y a un très grand nombre de prêtres, particulièrement de curés. Sur 300 prêtres en tout, il y a 200 curés. Et parmi eux, un certain nombre que l'on connaît d'ailleurs, dont on connaît individuellement les figures, qui ont vraiment porté la Révolution, pour certains dans ses premiers moments et pour certains jusqu'au bout.
Il y a une dizaine d'années, vous avez publié un très beau livre sur un très beau personnage, l'abbé Grégoire. Il va servir de fil conducteur à cette émission sur Église et État pendant la Révolution. C'était un bon curé de Lorraine.
Oui, c'est un curé de Lorraine qui s'est retrouvé député du clergé aux États généraux et qui a été parmi ceux qui ont transformé ces États généraux en Assemblée nationale. Mais pendant longtemps, moi, j'ai cru que Grégoire était une sorte d'original. Et je me suis rendu compte que non. Bon, c'est vrai que c'est une haute figure, un grand orateur, quelqu'un qui a beaucoup de force. Mais il fait partie de toute une aile du clergé catholique, de ces prêtres qui se sont eux-mêmes désignés comme les prêtres patriotes.
Alors, il était beaucoup plus intellectuel que nombre de ses collègues prêtres patriotes, publiant notamment pour défendre la cause des Noirs ou des Juifs. Mais il était, comme ses collègues, un agent de paix, quelqu'un qui jouait un rôle important dans l'éducation, notamment dans son village. Il se retrouve donc aux États généraux. Les États généraux commencent en mai 1789 par une procession auquel participent des membres du tiers-État, comme Barnave, qu'on va entendre, et puis un autre curé, moins patriote que Grégoire, qui s'appelle Barbotin, deux personnages du film L'été de la Révolution, de Lazare Iglesis.
Monsieur Barnave, sans doute ?
Lui-même.
Je suis l'abbé Barbotin.
J'étais impatient de vous rencontrer.
Je suis député du Hainaut, curé de Prouvy, près de Valenciennes.
Oui, oui.
Le jour de mon entrée à l'Assemblée du clergé, j'ai été ému comme un novice dans cette tenue.
Je ne sais pas comment les choses évoluent de votre côté, mais chez nous, il ne se passe pas de jour sans qu'une décision capitale soit prise. Tenez, aujourd'hui, nous avons voté pour donner un titre à notre Assemblée. 491 d'entre nous ont choisi Assemblée nationale. C'est un beau titre, n'est-ce pas ?
En somme, vous faites comme si les autres n'existaient pas. Comme si notre Assemblée, celle de la noblesse, ne comptait pour rien.
Et au contraire, nous vous attendons. Cela fait plus d'un mois que nous vous attendons. Venez nous rejoindre et vous serez accueillis à bras ouverts. Je sais que nous avons de chauds partisans parmi vous, notamment Monseigneur l'archevêque de Vienne, Monsieur Lefranc de Pompignan.
Si une majorité se décide, je ne dis pas non. Quand tout sera réglé, j'espère bien retourner au pays et retrouver ma cure et mon jardin.
Alors, des 200 prêtres députés, peu m'ont retrouvé leur cure et leur jardin. Il y a aussi une quarantaine d'évêques qui sont députés. Quelques-uns des évêques vont jouer un rôle important, eux aussi, dans les textes qui vont régir l'Église telle qu'elle est en train de se réformer au début de la Révolution. Nous sommes toujours en 89.
Oui, alors quand on parle de réforme de l'Église, bon, ça n'est pas une réforme qui s'est faite à l'initiative, en fait, du clergé. Il faut bien reconnaître que c'est une réforme qui s'est faite plutôt à l'initiative de l'ensemble de l'Assemblée, du tiers-État, et notamment parmi le tiers-État, d'hommes qui sont des catholiques fervents, mais qui ne font pas partie du clergé, tout simplement parce que le monde catholique, avant la Révolution, le monde catholique français est un monde qui est déjà profondément divisé. Et la Révolution hérite de tous ces conflits.
Alors la division, elle est le fruit de l'inégalité sociale. On entendait tout à l'heure le prêtre patriote de Marseille, dans le film de Jean Renoir, se plaindre de la richesse de l'évêque. On avait aussi mesuré combien étaient un peu inutiles certains monastères, trop grassement rétribués avant la Révolution. Et on va faire donc porter le fer, là, sur les privilèges financiers.
C'est pour ça aussi que la Révolution a eu lieu. En fait, les États généraux ne se sont pas du tout réunis pour régler tel ou tel problème concernant le clergé. Les États généraux ont été réunis parce que le trésor royal est en déficit, qu'on a besoin de trouver de l'argent et qu'on va demander aux différents membres, aux différents représentants des ordres du pays, on va leur demander un effort. Et bon, il se trouve que ces représentants des ordres se réunissant, sous la forte poussée d'abord du tiers-État, ont décidé de se réunir pour former l'Assemblée nationale, pour résoudre la question financière et pour procéder à un certain nombre de réformes. Mais l'argent, il faut aller le chercher là où il est. Et l'Église, à ce moment-là, détient à peu près, on estime à peu près 10% de la principale richesse française, qui est la terre et ses revenus.
Donc le clergé va accepter à l'Assemblée nationale de voir supprimer la dîme, qui représente souvent 10% des impôts, grosso modo, va accepter qu'on vende les vases sacrés, que soient sécularisés les biens d'Église.
Les biens d'église ont été mis à la disposition de la nation. Alors là-dessus, j'aimerais préciser les choses parce que c'est vrai qu'on a une vision souvent d'une distribution totale, une espèce de mise à l'encan de l'ensemble du patrimoine de l'Église. Ça n'est pas du tout l'esprit de cette assemblée dont vous avez dit tout à l'heure à quel point elle rassemble beaucoup de catholiques fervents, que ce soit dans le clergé ou dans le tiers ou dans la noblesse. L'idée, c'est d'utiliser la partie des biens du clergé qui n'est pas nécessaire au culte. Pour ce faire, l'ensemble des biens du clergé, comme je le dis, la formule, c'est qu'ils sont mis à disposition de la nation, quitte à ce que la nation en dispose, pour ce qui n'est pas nécessaire au culte, ceci afin de renflouer ses finances. Mais je voudrais quand même rappeler une chose, c'est qu'on a un peu tendance à considérer la question française de manière insulaire, sans tenir compte de ce qui s'est passé ailleurs.
Oui, en Autriche, on a fait la même chose.
Voilà, absolument, vous avez tout à fait raison. Alors, on ne l'a pas fait de la même façon, mais bien avant, c'est l'empereur d'Autriche, absolument, qui a pris la décision d'abord de faire payer un impôt normal au clergé, et puis par ailleurs d'utiliser les biens de certains ordres monastiques jugés non utiles selon la terminologie des Lumières, en fait, pour pas remplir les caisses de l'État, pas résorber le déficit, mais pour faire un tas de choses dont on considère que les gens en ont besoin.
Souvent, les souverains d'anciens régimes ont les coudées franches vis-à-vis du pape et font passer l'Église de Rome, qui est dans leur pays, sous leur fourche caudine. C'est le cas de Joseph en Autriche, c'est le cas aussi souvent des rois de France. Alors, rationalisation aussi, quand on met au point, alors là nous sommes au début de l'été 1790, l'année suivante, la constitution civile du clergé qui paraît à certains égards bien raisonnable, des évêques de 22 ans, des évêques qui ne sont pas là dans leur diocèse, des diocèses extrêmement éparpillés. Alors on a mis ça un peu au carré, comme on l'aimait bien au début de la Révolution. Un diocèse par département. Alors ça, ça passe bien. Par contre, quand la constitution civile du clergé imagine que les évêques et les curés puissent être élus par la population.
Comme
votre abbé Grégoire, il était pour.
L'abbé Grégoire, en fait, comme on le voit républicain ensuite et puis membre du clergé patriote, on a très souvent tendance à lui attribuer la paternité de la constitution civile du clergé, ce qui est tout à fait faux. Parce qu'en fait, la mesure de fond de la constitution civile du clergé, elle est liée à la question financière dont on parlait tout à l'heure. Si on a mis à disposition de la nation les biens du clergé, il fallait quand même continuer à faire fonctionner le culte. Et pour cela, l'État s'engageait aussi à rétribuer les membres du clergé et les membres officiants. Pour cela, il fallait leur verser un salaire. À partir de ce moment-là, ils rentrent dans un statut qui ressemble à celui d'un fonctionnaire. Et c'est de fil en aiguille, et non pas comme ça avec un projet géométriquement construit, que l'Assemblée s'est engagée dans cette série de mesures.
Alors de même, de fil en aiguille, sans que ce soit nécessairement préconçu dans leurs esprits, le pape, d'un côté, après de longs silences, s'oppose à la constitution civile du clergé. L'idée d'élection, évidemment, lui est insupportable. Et le roi, qui est habitué à régir l'Église face à Rome, eh bien, se retrouve sur la même position que le pape. Dialogue imaginé par Robert Henrico entre l'envoyé du pape Pie VI et le roi Louis XVI.
Sa sainteté ne pitolerait qu'on ait la prétention de lire les évêques comme on élit des députés à l'Assemblée. Ce que sa sainteté voit avec plus de douleur encore, c'est que l'on veuille obliger tous les prêtres à prêter serment à cette constitution civile. Jamais sa sainteté n'autorisera les prêtres de France à prononcer ces serments.
Assurer le Saint-Père de ma loyauté personnelle, je jure de ne recevoir la Sainte Communion que des mains de prêtres fidèles à Rome.
Je le lui dirai.
Et maintenant, monsieur, voulez-vous me bénir ?
Ce dialogue date de 1791, s'il a eu lieu. Un schisme comme ça se dessine, que personne peut-être n'a voulu, entre ceux qui vont prêter le serment, on va les appeler les jureurs, ils vont constituer l'Église constitutionnelle, l'abbé Grégoire en sera évêque à Blois, et puis les autres, les réfractaires au serment. On connaît très peu l'Église constitutionnelle. Parlez-nous de l'expérience que ça a été.
Oui, volontiers. Pour en revenir un petit peu justement à ce dont on parlait il y a quelques instants sur la façon dont l'Église constitutionnelle a émergé, il y a cette question financière effectivement, mais en réalité il n'y a pas que ça. Il est vrai que à l'intérieur de l'Assemblée nationale, il y a des gens qui souhaitent une réforme de l'Église. Et cette idée qui paraît très curieuse de l'élection des prêtres, des curés et des évêques, en fait, c'est une idée qui a été argumentée par référence à ce que l'on a appelé l'Église primitive, comme un retour de l'Église à sa pureté des premiers temps, où c'est vrai que, bon, c'était à l'intérieur de tout petits groupes, mais les évêques, notamment, les premiers évêques, les chefs des communautés chrétiennes, étaient nommés au sein de ces communautés. Donc, on a invoqué ce principe pour argumenter l'élection. Et ceci est bien significatif d'une volonté de réforme. Et c'est ça qui a construit l'Église constitutionnelle.
Quand Grégoire est élu dans le Loir-et-Cher, évêque de Blois, il arrive dans ce qui est actuellement la mairie de Blois, qui était le siège du diocèse, et puis il va essayer d'expliquer à tous ces curés qu'ils doivent devenir des anges de paix. Il y a une grande idée d'unité dans l'action de l'Église constitutionnelle. Une unité difficile à obtenir parce que, justement, elle naît dans la division.
Absolument, c'est-à-dire que si on essaye de comprendre un peu la vision des prêtres patriotes, il y a une lecture messianique chez eux de la Révolution. Pour eux, la Révolution qui établit, qui reconnaît, comme on disait à l'époque, les droits de l'homme, d'une certaine façon, elle achève le message de l'Évangile. Si bien qu'il y a vraiment une volonté, même si ça suppose des sacrifices, même si ça suppose d'avaler certaines couleuvres, il y a une volonté d'accompagner le parcours de la Révolution, de faire partie de la Révolution. Et l'idée d'une démocratie est très très forte. Et chez ces prêtres, qui voient d'ailleurs l'Église comme le prototype de la démocratie.
Oui, mais le parcours de la Révolution s'accélère. La Révolution choisit la fuite en avant. L'Assemblée législative vote la guerre contre l'Autriche. Le pape paraît être un allié des adversaires de la France. Le roi aussi. Et donc, les prêtres réfractaires en même temps. Et commence une atmosphère qui va devenir peu à peu une atmosphère de persécution. On peut employer le mot, hein. Massacre de septembre de prêtres à Paris, emprisonnement, très très nombreux.
Tout à fait, tout à fait. Il y a une seule chose sur laquelle je voudrais revenir, c'est sur les propos de l'envoyé du pape qu'on a entendu tout à l'heure. Ce qui a été très mal reçu en France, c'est que la condamnation du pape, elle ne porte pas principalement sur la constitution civile du clergé. Elle porte principalement sur la déclaration des droits de l'homme et sur l'idée même des droits de l'homme. Ce qui montre là une fracture qui n'est pas une fracture religieuse, mais qui est une fracture politique. Et tout le problème, c'est la façon dont les politiques, et particulièrement les membres de la législative, qui ne sont pas aussi expérimentés que les membres de l'Assemblée constituante, vont lire les quelques réticences à l'application de la constitution civile du clergé qui se manifeste dans le pays.
Et encore moins expérimenté que les membres de l'Assemblée, les délégués des municipalités, ceux qui ont pouvoir de police dans les localités, qui vont s'en prendre en particulier aux ordres monastiques qui déjà étaient impopulaires avant la Révolution. Les carmélites de Compiègne sont ainsi amenés devant le tribunal révolutionnaire.
Le tribunal révolutionnaire expose que les ex-religieuses carmélites demeurant à Compiègne, département de l'Oise, ont formé des rassemblements et conciliabules contre révolutionnaires.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Condamné à mort, on sait la fin superbe de l'oratorio que Poulenc a tiré de l'œuvre de Bernanos avec le couperet de la guillotine qui tombe sur chacune des religieuses. C'est d'ailleurs souvent les femmes qui se sont le plus rebellées contre la persécution, d'où peut-être cette idée que le catholicisme si féminin en France au XIXe siècle vient de se souvenir.
Alors, bon, c'est une idée qui, quand même, est très, qui doit beaucoup au XIXe siècle et à, disons, des voix assez critiques, hein, de l'Église et qu'on a vu développer notamment dans la littérature du XIXe siècle, qui revient sous la plume de grands feuilletonistes, par exemple, comme Eugène Sue. Dans une œuvre comme Le Juif errant, on voit beaucoup les femmes. Pourquoi ? Parce qu'elles sont sous la coupe de leurs confesseurs, qui les éloignent de leur mari. Mais sans aller jusque dans des vues aussi polémiques, il est sûr que la résistance du clergé à la constitution civile du clergé, mais surtout à l'idée du mariage des prêtres, effectivement, ce sont les femmes, ce sont les religieuses qui, de manière très claire, ont résisté avec le plus grand courage.
La persécution aboutit au déprêtrisement, c'est-à-dire qu'on invite un certain nombre de prêtres jureurs, ceux qui faisaient partie de l'Église constitutionnelle, à aller au bout de leurs convictions révolutionnaires, à abjurer le sacerdoce. C'est arrivé pour l'archevêque de Paris, au long d'une grande mascarade dans sa cathédrale, mascarade de transgression. Votre abbé Grégoire, il est de nouveau député de la montagne à la Convention. Il continue impavide à siéger dans sa soutane violette. C'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles on a décidé de maintenir sa mémoire au moment du bicentenaire 1989. Le président Mitterrand veut la panthéonisation de l'abbé Grégoire, ce que l'Église catholique de France regarde avec mauvaise grâce. Archives de France Inter, décembre 89.
Les vagues de l'abbé Grégoire, l'Église de France fait la tête. Pas d'évêque ce soir au Panthéon pour la cérémonie d'hommage aux prêtres défenseurs des droits de l'homme et de la Révolution. Le citoyen Henri Grégoire ou l'abbé Grégoire, toute la question est là. L'abbé Grégoire est le prêtre qui symbolise les rapports tumultueux entre l'Église et la République. L'abbé Grégoire, qui à l'époque a pris fait et cause pour les Noirs, contre l'esclavage et pour toutes les victimes d'injustice. Mais il a été aussi le premier prêtre à prêter serment à la constitution civile du clergé. C'est pour cela que l'Église de France boudera cet après-midi la cérémonie du Panthéon. Monseigneur Lustiger, l'archevêque de Paris, explique à Marie-Thierre Samitier pourquoi il sera absent ce soir.
Il s'agit de bien marquer à la fois la distinction de ce qui est la prière de l'Église et de ce qui est une solennisation purement civile. Le point qui m'a le plus touché, frappé, c'est que cet homme n'a jamais abandonné les signes extérieurs de son sacerdoce au plus fort moment de la terreur. Il y a risqué sa vie. Je suis très heureux que la République reconnaisse le courage chrétien qui a été le sien en défendant la dignité de l'homme en bien des domaines. Je regrette seulement qu'au Panthéon, sur sa plaque, il n'y ait pas de croix. Il me semble que là, il y a un geste de concorde qui aurait honoré la République d'admettre dans ce temple civil aussi la présence des chrétiens qui font partie de la nation.
Alors le cardinal Lustiger, fidèle à Rome, ne peut pas accepter d'aller trop loin dans la reconnaissance du rôle de l'évêque abbé Grégoire constitutionnel. Parce que ceux qui sont fidèles à Rome, ils défendent le primat de Rome. Ceux qui, comme Grégoire, avaient fait l'expérience constitutionnelle, ils étaient dans la tradition gallicanisme, dans la tradition d'une autonomie, d'une exception française.
Alors, il y a une chose dont je ne sais pas si le cardinal Lustiger la savait lui-même, c'est que au moment du débat sur la constitution civile du clergé à l'Assemblée constituante, il y a quelqu'un qui a bien vu que Rome était totalement oubliée de ce débat et qui a tenu à ce que dans la loi définissant la constitution civile du clergé, il soit mentionné que chaque nouvel évêque doit maintenir le lien avec Rome en lui envoyant immédiatement une lettre de soumission.
Celui qui pensait, c'était Grégoire.
Bien sûr.
Mais il a une grande capacité d'adaptation. Après, il gravit la montagne.
Mais je crois que ce n'est pas une adaptation, si vous voulez, opportuniste. Là, c'est effectivement c'est le fond de sa position, qui n'est pas une position de rupture. Et vous avez employé tout à l'heure le terme schisme. Savoir si oui ou non il faut parler d'un schisme à ce moment-là, c'est toute une discussion. Parce qu'en principe, on parle de schisme quand il y a volonté de séparation.
En tout cas, il y a des conséquences dans le souvenir français, la division entre ceux qui croient que Rome a la vérité, on dira les ultramontains, entre guillemets, les papistes, entre guillemets, et puis ceux qui pensent qu'une église en France peut avoir une originalité. Il y a aussi une autre grande conséquence de ces conflits. Elle est d'ordre géographique, parce qu'il y a des régions où les prêtres jureurs constitutionnels ont été très nombreux, Blois, le centre de la France, et puis dans l'Ouest, il y avait beaucoup de réfractaires qui ont joué un rôle important dans les révoltes et les guerres de Vendée ou de la Chouannerie.
On ne veut plus entendre la messe comme des bêtes au fond des bois. On ne veut plus enterrer nos morts à la sauvette. On ne veut plus voir partir nos enfants au bout du monde. Pour défendre quoi? On n'a plus de pays, puisqu'on n'a plus de roi.
Le roi est mort, vive le roi! À Paris!
À Paris!
Mes frères, vous êtes désormais des soldats de l'armée catholique et royale. Oh Pierre, distribue notre emblème, le Sacré-Cœur du Christ.
Et dans le bocage vendéen, les républicains qui essayaient de maintenir l'ordre entendaient parfois monter le son de la Marseillaise, mais c'était une ruse de leurs adversaires qui avaient inventé la Marseillaise des Blancs.
Allons enfants de la Vendée, vertueux braves paysans, pour venger la foi qu'on outrage, le roi, la reine et leurs enfants. Vous vous battez pour Dieu, vous vous battez depuis longtemps, sans moyen que votre courage.
Aux armes, Poitevin, formez vos bataillons, marchez. Le sang des bleus rougira vos sillons.
Aux armes vendéens et poitevins, on pourrait expliquer encore beaucoup des comportements politiques, région par région, presque canton par canton, en finesse dans certaines zones de France, par les choix qui ont été faits à ce moment-là.
Oui, c'est d'ailleurs ce qu'ont fait beaucoup d'historiens et d'analystes du politique, notamment Jacques Ozouf, dans ses études sur le 19e siècle. Bon, ceci dit, ce qu'on voit là, c'est ce qu'on a appelé la guerre des deux France. Mais autant on peut en voir une empreinte locale, effective, qui perdure, autant je crois quand même qu'il faut tenir compte dans nos études et dans la façon dont nous voyons les choses, de tout ce qui s'est passé au XIXe siècle, de l'héritage du conflit symbolique et de la façon dont le conflit symbolique a été ravivé à maintes reprises pendant le XIXe siècle.
Conflit symbolique, alors d'aucuns expliquent que la déchristianisation en a été approfondie, et c'est vrai que quand on regarde les instruments de mesure quantifiables dans les convaincus, d'autres expliquent que la révolution a provoqué chez les chrétiens, quel que soit leur camp, un regain de ferveur. La France est devenue terre de mission, si on ose. L'anachronisme, le terme a été souvent utilisé par les catholiques au XXe siècle.
Non, ça n'est pas du tout un anachronisme. Et d'ailleurs, en fait, certaines parties de la France étaient déjà terre de mission bien avant. On a entendu tout à l'heure dans le passage sur les Vendéens, l'emblème du Sacré-Cœur. Et le Sacré-Cœur, c'est une figure religieuse catholique qui a été beaucoup mise en avant dans ce qu'on a appelé la réforme ou contre-réforme catholique. C'est quelque chose qui commence avant, c'est le déploiement d'une sensibilité religieuse qui commence avant la Révolution.
Oui, mais Napoléon, qui va l'emporter à la fin, premier consul, il signe le concordat de 1801, provoquant le compromis avec le pape. Empereur, il se fait sacrer en 1804. Lui, le langage de la nouvelle évangélisation, de la mission, de la ferveur, ce n'est pas le sien. Voici comment Yves Simenon, dans son film, imagine le dialogue entre le nouvel empereur, 1804, et le nouveau pape, Pie VII.
Mais à qui exactement demandez-vous de bénir votre règne, sire ? À notre Seigneur Tout-Puissant ? Ou à son serviteur qui le représente humblement ?
Humblement ? Vous trouvez ça humble ? Le tonnerre des grandes orgues ? Les nuages d'encens ? Les autels croulants sous les fleurs ? Les sultanes brodées d'or ? Les processions de diacres, de prêtres, d'archiprêtres, d'évêques, de cardinaux ?
Vous confondez Dieu avec la religion.
Non, au contraire, je les sépare. D'un côté, une hypothèse, un pari. Dieu. De l'autre, une certitude, la religion, c'est elle qui charpente les sociétés humaines. Sans religion, les peuples n'ont plus de repères, on a bien vu ce que ça a donné en France. Quand la Révolution, sous prétexte de libérer les esprits, a pillé les églises et guillotiné les religieux. Le pays est tombé dans l'anarchie et les folies de la terreur. Non, on peut vivre sans Dieu, mais pas sans religion.
Napoléon va rétablir la religion par le concordat, mais une religion de sécurité, avec asservissement d'ailleurs pour les catholiques.
Napoléon a compris une chose essentielle, c'est qu'on ne pouvait pas pacifier la France et surtout que lui ne pouvait pas construire son propre pouvoir sans rétablir effectivement une expression religieuse en France. Et en fait, ce qui va permettre ça, c'est le concordat avec les articles organiques, c'est-à-dire à la fois rétablir la religion, principalement la religion catholique, mais aussi maintenir un héritage de la Révolution, sur lequel ce serait quand même dommage de passer, qui est un début de pluralité religieuse en France, puisque les articles organiques organisent non seulement le statut du culte catholique, mais aussi des deux cultes protestants.
Oui, c'est ce qui va vous intéresser dans la suite de vos études qu'on attend. Rita Hermant-Belot, l'exercice de la politique de l'État face à des religions qui sont dans la pluralité. L'abbé Grégoire, auquel vous avez consacré au Seuil en 2000 un très beau livre, s'est beaucoup occupé de la question des Juifs. L'abbé Grégoire qui expliquait que le concordat n'était qu'une trêve, c'était des cendres sur un feu qui couve. On racontera ça dans un prochain épisode, la semaine prochaine de La Marche de l'Histoire. La Marche de l'Histoire aujourd'hui, préparée par Franck Livard, Frédéric Martin, Camille Poux-Jalaguier, avec à la réalisation Jacques Sigal et à la technique Rémi Quincé et Thibaut Deschamps.